Eh bien, mes amis, dans ce cadre si merveilleux, et dans cette soirée qui est en même temps l'anniversaire de notre chère Gisèle, je vais vous apporter un dernier message, ces derniers messages du soir, intitulé « À l'écoute du Fils de l'homme ». Et dans ce 22 août 1980, puisque notre réunion n'a pas lieu dans la salle habituelle, mais dans ce lieu plus merveilleux, je voudrais simplement vous laisser une de ces paroles du Fils de l'homme qui doit se graver dans votre cœur et résumer au fond tout ce qui vous a été dit sur les droits du Fils de l'homme et sur la certitude que c'est lui qui doit régner sur le monde. Et ce règne, nous le croyons proche. Si vous voulez savoir quel est l'avenir de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, comme aussi quel est l'avenir de ceux qui ferment leur cœur à sa grâce et qui le refusent, lisez la parole de Dieu. En elle, vous trouverez des certitudes. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des paroles d'hommes illuminés qui auraient parlé de leur propre cœur, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Et ce que nous n'avons pas pu vous enseigner, vous dire, vous le trouverez dans cette parole, qui n'a pas besoin d'être commenté. Et en quelque sorte, je suis heureux de ne pas avoir pu vous en dire plus. Mais si ce que vous avez entendu vous a donné le goût d'en savoir davantage, alors, quand vous serez hors du camp, ouvrez vos Bibles. Demandez au Seigneur qu'il vous éclaire et qu'il vous donne l'intelligence pour comprendre son langage et ce qu'il a voulu vous dire. Dieu a parlé pour être compris. Et Jésus lui-même s'est écrié un jour en pleine nature, sous le ciel de Galilée, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés à des petits enfants. » Si vous avez un cœur d'enfant pour lire l'Écriture, vous n'avez pas même besoin de commentaires. Le Seigneur vous illuminera. Mais avant de commencer votre lecture, vous lui direz, comme le psalmiste autrefois, « Ouvre mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi. » Ainsi, la parole qui résume tout ce soir est celle-ci. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Dans ce temps où nous commençons de voir s'accomplir ce bouleversement de toute chose qui a été prédit dès longtemps, nous vous le rappelions, notre seul point fixe est la parole de Dieu. Et ce que nous avons à attendre, le premier événement qui doit nous toucher si nous avons reçu le Seigneur Jésus, c'est son retour. Le Seigneur revient. Et quand on parle de son retour, lorsqu'on lit la parole, on apprend, et cela supprime toutes les contradictions apparentes de nos lectures partielles, quand on lit l'ensemble des Écritures, on apprend que son retour doit se passer en deux actes principaux. Il y a plusieurs phases dans le retour de Jésus. Il n'y a pas plusieurs retours, il y a un retour du Seigneur, mais qui se produit en deux phases. La première, et je suis heureux d'être sous le ciel, parce que là vous avez en même temps toute la nature qui vous parle de ce qui se passera. Une certaine nuit pour les uns, un certain jour, il sera midi quelque part sur la terre, il sera minuit à l'opposé de notre cité, peu importe, nous savons que pour les uns, le retour du Seigneur aura lieu la nuit et pour les autres, le jour. Nous savons aussi qu'avec une sagesse qui est vraiment une sagesse divine, Jésus a toujours refusé de dire le jour et l'heure de son retour, parce que son amour est universel et nous avons un Dieu qui ne peut pas mentir. S'il dit qu'il revient à midi, c'est vrai pour les uns, mais ce n'est pas vrai pour les autres. Alors il dit, vous ne savez ni le jour, ni l'heure, parce que pour les uns, il y a un décalage de plus de 24 heures, de sorte qu'on ne peut pas dire le jour ni l'heure de son retour. Mais ce dont vous pouvez être certain, c'est qu'il reviendra. Et les jeunes Thessaloniciens qui n'avaient entendu l'apôtre Paul que le temps de 3 sabbats, eux avaient si bien saisi le message que le retour du Seigneur était toute leur espérance. Ils avaient pu se détourner des idoles. Vous avez vu un spectacle d'idoles tout à l'heure. Eh bien, de ces idoles-là, par la parole de l'apôtre Paul, ils s'en sont détournés pour servir le Dieu vivant et vrai, ce Dieu qui est aussi un feu consumant. Le Dieu vivant et vrai est un feu consumant. Eh bien, les Thessaloniciens ont pu, sans hésiter, se détourner des idoles et se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Voilà ce qu'ils avaient compris en l'espace de si peu de temps, 3 réunions peut-être. Et nous, qui avons eu le privilège d'être plusieurs soirs à l'écoute de la parole de Dieu, avons-nous saisi déjà ce que les Thessaloniciens avaient compris du message? Le retour du Seigneur s'était imposé à leur cœur. Et ils étaient déjà détachés des choses de la terre et complètement engagés dans ce service pour le Seigneur. Mais ils le servaient en l'attendant. Quelle espérance! Et ils l'attendaient des cieux. Alors, folie que de penser que l'on doit aller dans tel endroit parce qu'on vous dit « le Christ est ici, le Christ est là ». S'élèvera plusieurs faux Christ, plusieurs faux prophètes. Et le Seigneur nous a avertis et nous a dit, quand on vous dira que le Christ est ici ou qu'il est dans une chambre ou dans un autre pays, n'y allez pas, car ma venue, dit-il, sera soudaine et se verra d'un bout du ciel à l'autre bout. On verra le signe du Fils de l'homme. Alors, on se dit, mais oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec ce que vous nous avez dit? Eh bien, c'est justement là que vous devez vous souvenir qu'il y a deux actes, deux phases à son retour. Il revient d'abord pour les siens. Et quand il revient pour les siens, le monde ne le voit pas. Seuls ceux qui sont concernés, ceux qui sont élus, ceux qui l'ont reçu, sont appelés à monter à sa rencontre. Il ne revient pas sur la terre. Il revient d'abord ravir ceux qui lui appartiennent et qui forment, depuis qu'il est monté dans la gloire, les membres de son corps. Parce que le Christ, maintenant, ce n'est plus seulement la tête glorifiée dans le ciel, c'est aussi tous les membres de son corps. Nous sommes du Christ. Si nous sommes à lui, nous faisons partie de lui. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous sommes incorporés en lui. De sorte que le Christ ne peut pas se manifester au monde sans nous, sans les siens. Il y a unité totale entre la tête et le corps, et quand il apparaîtra au monde, le Christ qui sera vu, c'est Jésus et les siens, et c'est Jésus dans les siens. Il ne peut revenir qu'avec les siens. Or, pour revenir avec les siens, il doit d'abord enlever les siens, les réunir à lui. Car quand il reviendra, son retour sera visible. Mais pour la première opération de ce retour, il vient sur les nuées du ciel. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle l'étoile du matin. Seuls ceux qui veillent peuvent contempler l'éclat de l'étoile du matin, qui se manifeste quand la nuit se fait plus obscure, se fait plus froide, et nous sentons que nous arrivons dans cette période où la nuit se fait plus sombre, la nuit froide de la haine, de la violence. Mais cela annonce un matin sans nuages, où le soleil de justice apparaîtra, apportant à la terre et à ce monde entier la guérison sur ses rayons. Ça, c'est la deuxième phase de son retour en gloire. Première phase, lever de l'étoile du matin. Est-ce que ce lever s'est déjà manifesté dans nos cœurs? Est-ce que nous connaissons cette bienheureuse espérance? Cela concerne les rachetés du Seigneur, les enfants de Dieu. Êtes-vous prêts pour ce grand départ, pour cet enlèvement? Il revient. Et certainement qu'à ce moment-là, il y aura dans toute la création une action angélique pour cette opération soudaine, cet enlèvement de nuit et de jour de tous les croyants qui ont reçu Jésus et qui seront cette génération qui se trouvera vivante à sa venue. Il y en aura une de génération, et vous êtes peut-être, et nous sommes peut-être, de cette génération. C'est pourquoi il est dit que sa venue sur les nuées du ciel est pour le cœur de ceux qui l'attendent une bienheureuse espérance. Et bien que cette bienheureuse espérance, sa venue, qui est appelée en grec la parousie, comme on l'a traduit, la parousie, c'est un élément qui est employé pour son retour. Mais la parousie concerne le premier acte, sa venue sur les nuées du ciel. Puis ensuite, on a un second mot qu'on a traduit du grec, son épiphanie, c'est-à-dire sa manifestation. Il apparaîtra, son apparition, ce n'est pas dans le premier acte qu'il apparaît au monde, c'est dans le second acte, quand tête et corps ne forment plus qu'une unité totale et qu'on ne voit plus que les perfections du Seigneur en tous ses membres, quand il pourra être admiré dans les saints est glorifié en tous ceux qui auront cru, comme nous l'avons vu dans le chapitre 11 des Hébreux. Il n'y a plus que les perfections, il n'y a plus que la foi qui est manifestée dans la nuée de témoins. Eh bien, alors, il pourra revenir en gloire pour établir par de terribles jugements son royaume sur toutes les nations de la terre, qui seront alors dans une grande crise, et où nous voyons que quand le Seigneur reviendra en gloire, quand il apparaîtra, eh bien, les nations seront réunies dans cette grande plaine d'Armageddon, la vallée de Megiddo que je traverse souvent, cette grande vallée où il y a déjà eu d'innombrables batailles, eh bien c'est là qu'aura lieu la dernière bataille. Les nations auront été attirées par Israël, et nous savons que déjà ce peuple a été proclamé nation depuis 1947 par l'ONU. Qu'en 1948, ils ont proclamé leur indépendance, et nous savons que cela est un signe. Nous n'avons pas besoin de signes pour attendre la venue, l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement des saints, parce que je préfère employer ce terme, l'enlèvement des saints, que l'enlèvement de l'Église, parce que quand il revient sur les nuées, quand il revient pour prendre ce qui lui appartient, il enlève aussi tous ceux qui sont morts dans la foi et qui avaient précédé sa venue. C'est l'enlèvement non seulement de l'Église, mais l'enlèvement de tous les croyants dans lesquels se trouvent Abraham et tous ses patriarches et tous ceux qui depuis Adam ont cru à celui qui devait venir et qui est venu une première fois dans la pauvreté, dans l'humilité, pour régler la question du péché, qu'il a réglé à la croix, mais qui doit revenir une seconde fois pour apporter le salut total, le salut aussi de nos corps à ceux qui l'attendent. Eh bien, lisez la parole de Dieu et vous verrez que vous pourrez comprendre le merveilleux plan de Dieu et qu'il n'y a pas contradiction dans la parole. Sondez les Écritures, ce sont elles qui parlent de moi, disait Jésus. Alors vous aurez une vision claire de ces événements. Enlèvement des croyants. Donc, enlèvement qui peut vous concerner s'il revient ce soir, s'il revient cette nuit, s'il revient durant votre vie, eh bien, sachez-le, vous ne passerez pas par la mort pour entrer dans le séjour merveilleux de la maison du Père. En un instant, nous disent les apôtres, nous serons transformés, nos corps mortels seront changés en des corps immortels et glorieux, en des corps semblables au corps de Jésus ressuscité, et nous nous en irons à sa rencontre. Les morts en Christ, tous nos bien-aimés qui se sont endormis dans la foi, seront ressuscités. C'est ce qui est appelé la première résurrection. Bienheureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir. C'est ce que Jésus appelait la résurrection pour la vie. C'est ce que Daniel appelle la résurrection des justes. C'est toujours la première résurrection, une hors résurrection des morts. C'est une résurrection d'entre les morts. Ce ne sont pas tous les morts qui ressuscitent, mais seulement ceux qui sont morts dans la foi. Et dans des corps incorruptibles, ils s'en vont à la rencontre du Seigneur. Nous les vivants, nous sommes retirés de la scène de ce monde et rassemblés avec les saints de tous les âges sur les nuées du ciel. Nous entrons dans les aimables demeures de la maison du Père où le Seigneur nous présentera à son Père. Alors, scène céleste, je veux croire que vous y entrez déjà par la foi et que vous savez ce qui se passera dans cette maison du Père. nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, non pas pour être jugés quant à nos âmes, puisque nous avons accepté d'être jugés dans la personne du Christ à la croix, notre salut est complet, notre salut est total, mais quand nous entrerons dans les demeures de la maison du Père, eh bien, le Seigneur manifestera, comme nous l'avons lu ce matin, ce qu'a été notre vie de chrétien, depuis le jour où vous l'avez reçu. Comment avez-vous servi le Seigneur? Avez-vous manifesté les caractères du Seigneur dans vos vies, en particulier celui de l'humilité et de la douceur, ou avez-vous été des hommes durs et orgueilleux, paissant le troupeau du Seigneur avec dureté, ou avez-vous été des bergers selon le cœur du Seigneur? Tout sera manifesté dans la lumière du tribunal du Christ. Et si je n'ai pas été fidèle, je le reconnaîtrai là-haut. Et je serai d'accord de ne pas avoir la couronne que le Seigneur aurait voulu me donner. Et si cette couronne va à quelqu'un d'autre, je dirai, tu es juste, Seigneur, dans tous tes jugements. Et c'est vrai, je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû le faire. Et j'accepterai le blâme. Et ayant accepté le blâme, eh bien, je sais que je suis purifié, il n'est pas question de mon salut, mais il est question que pour l'éternité, eh bien, je n'aurai pas cette couronne. C'est pourquoi le Seigneur nous a avertis que nous devions veiller afin que personne ne prenne notre couronne. Si cela vous est indifférent, peu importe, moi j'ai pas besoin d'une couronne, pourvu que je sois sauvé. Alors tu n'auras rien à jeter aux pieds du Seigneur. Quel bonheur d'avoir des couronnes. Lorsque nous serons dans cette heure suprême de l'adoration, nous jetterons à ses pieds nos couronnes. Bien-aimés, réveillez-vous et devenez de ceux qui sont ambitieux d'avoir une couronne, non pas pour être glorifiés eux-mêmes, mais pour qu'avec votre couronne, vous glorifiez le Seigneur. Car dans les joyaux de votre couronne, chaque pierre précieuse parlera de ce que le Seigneur a pu faire en vous. Comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, l'a souligné, qu'il me soit fait selon ta parole. Chaque fois que vous vous serez laissé faire par le Seigneur, eh bien, il y a comme une pierre qui sera mise, qui est préparée dans la joaillerie céleste, une pierre qui est mise à votre couronne. Toutes les œuvres que vous accomplissez réellement pour le Seigneur, sans vouloir avoir votre récompense sur la terre, sont notées dans les livres. Et là, il y aura une pleine manifestation. Et nous acclamerons tous ceux dont on n'a jamais parlé sur la terre, parce qu'ils étaient des humbles, mais ils étaient des fidèles. Et tous ceux dont on a beaucoup parlé dans ce monde évangélique et religieux, eh bien, leurs noms viendront peut-être en dernier. Jésus nous avertit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors, il y aura un équilibre de nouveau qui sera fait. La justice sera pleinement manifestée. Alors, mes frères, puisque nous savons que nous devons tous, dans cette scène céleste, paraître devant le tribunal du Christ, vivons déjà maintenant dans cette lumière qui doit nous y manifester. Et jugeons-nous quotidiennement, heure après heure, de toute faute, de tout péché qui pourrait ternir la gloire du Seigneur. Et si nous vivons dans le jugement de nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, et le Seigneur n'aura pas besoin non plus de nous affliger par certaines épreuves qui sont envoyées si souvent pour notre purification, puisque nous ne comprenons pas le langage de l'amour. Alors, comme un père qui aime, le Seigneur doit nous châtier et nous discipliner, parce qu'il est ambitieux pour nous, parce que nous sommes ses fils et que nous ne sommes pas des bâtards. Il veut nous faire participer à la nature divine. Nous sommes maintenant déjà les enfants de Dieu. Puissions-nous manifester les caractères mêmes du Fils de Dieu dans nos vies. Alors, tout ayant été manifesté, je continue avec la scène céleste, dans le ciel seront célébrés ce qui est appelé les noces de l'agneau. Et son épouse sera revêtue de ce vêtement de fin lin éclatant et pur, qui sont les justices des saints. Ce n'est pas la robe de justice par laquelle nous aurons pu entrer dans la gloire, nous serons revêtus là alors de la robe de justice des saints, c'est-à-dire que c'est cette robe que nous sommes en train de filer sur la terre et que nous porterons dans la gloire, et c'est dans ce vêtement de gloire que le monde entier nous verra apparaître, pouvant contempler dans chaque croyant les perfections mêmes de Jésus-Christ, ce que nous aurons reflété de sa personne. Alors, souvenons-nous de cela. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Et c'est après cela que le ciel va s'ouvrir et que le Seigneur, à la tête de toute l'armée céleste, avec les siens, apparaîtra soudainement pour changer la face du monde qui sera en proie à un horrible délire. Que se sera-t-il passé sur la terre? Eh bien, vous lirez la parole, vous trouverez les enseignements de la parole. Après la disparition soudaine de tous les rachetés du Seigneur, ce qui va donner, comme nous le disions, bien des places qui résoudront peut-être un certain problème de chômage, il y aura aussi tous les biens que les chrétiens auront laissés dans ce monde qui seront là pour financer, hélas, les œuvres de celui qui paraîtra soudainement pour distraire ceux qui seront restés religieux, mais ne croyant pas au Seigneur Jésus, n'ayant pas accepté sa grâce, et qui auront été ébranlés par la disparition de ceux qui y croyaient. On comprendra bien sûr, peu à peu, dans ces milieux religieux, que ces vérités auxquelles on n'a pas cru se sont réalisées, mais pour détourner l'attention, eh bien, il y aura tout de suite un homme qui dira « Mais c'est moi qui suis le Christ !»« C'est moi !» Et ce surhomme qui apparaîtra revêtu de toute la puissance de Satan, eh bien, il aura comme adepte toute cette profession chrétienne sans la vie. Et parce qu'il s'imposera par des prodiges et des miracles, eh bien, les foules entières l'adoreront. Tous ces baptisés apostasiront de la foi, et c'est alors que le Seigneur reviendra. Vous trouverez cela dans le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. L'apparition de l'impie, l'apparition de l'inique, de celui qui s'élèvera contre Dieu et qui amènera les gens à adorer la bête. Ce ne sera plus le Père et le Fils qui auront droit à l'adoration, mais l'homme, la bête, qui sera adorée. Et parmi ceux qui seront sur la terre et qui n'auront pas entendu l'Évangile, le Seigneur opérera encore une fois l'Église enlevée, car il est un Dieu juste qui donne à tous les hommes une possibilité. Ceux et qui n'auront pas entendu l'Évangile résisteront pourtant à cette adoration de la bête. Et Dieu ayant réveillé une partie de son peuple, le peuple juif retourné en Israël dans un esprit d'incrédulité, une fois l'Église enlevée, le Seigneur visitera son peuple, reprendra ses relations avec son peuple et suscitera du milieu de son peuple des hommes nouveaux qui croiront au Seigneur Jésus, qui ne seront pas membres de l'Église, qui n'auront pas été associés à ce qui a été appelé l'Église, qui a commis tant de péchés et tant d'iniquités. Et alors, ces hommes nouveaux, pleins de feu et de flamme pour le Seigneur, iront prêcher l'évangile du royaume. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Eh bien, ce qu'ils prêcheront, c'est l'évangile du royaume. Au monde entier, à tous les peuples, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, tous auront l'occasion d'entendre cet évangile, mais prêché non plus par des gens issus de la chrétienté, mais par des gens issus du judaïsme, mais des hommes vraiment convertis, et qui, ressemblant aux premiers apôtres, seront prêts à mourir, martyrs, pour leur foi. Ils ne pourront ni acheter ni vendre, parce qu'ils refuseront de se soumettre au contrôle de la bête et du faux prophète, la bête, qui est le gouverneur de cet empire romain que nous voyons en train de se reconstituer en Europe. Il y a déjà 9 États, il est parlé de 10 qui donneront leur puissance à un seul chef et qui sera lié au faux prophète, un juif qui se fera passer pour le Messie, le faux Messie. Et les juifs convertis en Israël savent bien que le futur roi d'Israël sera le faux Messie. Quand il en viendra un, en son propre nom, disait Jésus, vous le recevrez. Mais moi qui suis venu au nom de mon Père, vous m'avez rejeté. Et alors? Alors, que ce peuple juif qui aura voulu faire une alliance avec cet empire européen, ou si vous voulez l'empire romain ressuscité, ce peuple juif qui, voulant se protéger contre l'Assyrien, c'est-à-dire contre la Russie et ses états satellites, contre ce bloc de l'Est, ce peuple juif fera une alliance avec le chef romain, mais nous savons qu'au milieu de l'alliance qui était faite pour 7 ans, l'alliance sera brisée et Israël sera de nouveau envahi par toutes les nations et ce sera ces guerres effroyables, ces persécutions, cette grande tribulation qui amènera enfin les Juifs à soupirer vers une délivrance, et c'est dans cette souffrance qu'ils arriveront à croire que ce Jésus qui est venu une première fois était réellement leur Messie, et que lisant l'Ancien Testament, ils reconnaîtront ce Fils unique du Père et ce premier-né de Marie. Et alors il y aura un courant d'humiliation sur ce peuple, et dans cette humiliation, eh bien le Seigneur viendra lui-même, il apparaîtra à Sion pour donner la délivrance. Et c'est à ce moment-là que nous apparaissons avec lui, avec le Seigneur, qui anéantira la bête et le faux prophète, qui jugera les nations, c'est le chapitre 25 de Matthieu. Les nations seront jugées selon l'attitude qu'elles auront eue à l'égard de ces témoins juifs qui leur auront annoncé l'évangile du royaume. Repentez-vous, le royaume est proche, le Seigneur va venir. Et ceux qui auront cru, eh bien, le Seigneur les reconnaîtra de toutes les nations. Ils seront multitudes qui seront même surpris d'être sauvés à ce moment-là. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être en prison et que nous t'avons manifesté quelque sympathie? En tant que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Littéralement, voilà. quand se réalisera le 25 de Matthieu. Mais nous pouvons prendre une instruction spirituelle de ces passages. Et alors, le Seigneur, après ce jugement des nations, et après la résurrection de tous ceux qui seront morts pendant la tribulation, qui ressuscitent et qui font partie de la première résurrection, c'est une autre catégorie de saints qui font toujours partie de cette première résurrection. Les morts incrédules restent dans la mort, mais ceux qui sont morts dans la période où l'Église a été enlevée, après l'enlèvement et l'enlèvement des saints, sont ressuscités pour le règne. Et entre le ciel et la terre, il y aura une relation constante. Les saints célestes, et l'Église fait partie des saints célestes, habiteront dans la cité céleste, mais en sortiront pour gouverner ce monde. Nous aurons des responsabilités sur les peuples, sur les pays de ce monde. Si vous souffrez avec lui maintenant, vous régnerez aussi avec lui. Le gouvernement du monde sera un gouvernement avec des ministres célestes, des gens incorruptibles. Et c'est pourquoi la répartition des biens pendant le règne millénaire se fera avec équité et justice, chacun sur la terre, parmi le peuple terrestre, parmi les nations. Chacun aura son bien, aura sa vigne et son figuier. Et la terre, délivrée du joug de la corruption à laquelle elle a été assujettie par la chute de l'homme, la terre connaîtra une bénédiction sans borne, et il est dit que les blés, on les entendra bruire jusqu'au sommet des montagnes. Il y aura la prospérité, mais une prospérité qui ne sera pas seulement pour les uns, mais qui sera pour tous les hommes. Et pendant 1000 ans, ce règne sera un règne de paix, de justice, où le Seigneur sera glorifié. Mais au bout des 1000 ans, 1000 ans pendant lesquels le diable lui-même aura été lié et dans l'impossibilité de nuire, au bout des 1000 ans, il est dit que le diable sera délié pour un temps, et les nations, ces peuples qui auront connu 1000 ans de paix, et qui auront connu la prospérité, auront la possibilité de se prononcer pour ou contre le Seigneur. Et Satan réussira à entraîner une multitude comme le sable de la mer dans une dernière et suprême révolte contre le règne du Seigneur. On cherchera encore une révolution à abattre le gouvernement divin, alors qu'on ne pourra se plaindre de rien. Mais si les gens, pendant le règne, ne se sont pas convertis au Seigneur Jésus, eh bien leur cœur naturel restera les mêmes. Ils feront le point dans leur poche, ils seront soumis au Seigneur, mais parce qu'ils auront peur de qui ? Du bourreau. Parce que tous les matins, le méchant sera retranché. Pendant les 1000 ans de règne, ça ne sera pas comme maintenant. Toute personne qui péchera, qui transgressera les lois du Seigneur, sera exécutée immédiatement. C'est pourquoi le mal ne pourra pas grandir sur la terre. Tandis que maintenant, Dieu laisse aux pécheurs du temps pour se repentir. Pendant le règne, quand il sera visible sur la terre, ça sera le péché impardonnable. Le péché contre l'esprit, le blasphème contre l'esprit, ne pouvait être pardonné ni dans le siècle où le Seigneur était présent, visible, ni dans le siècle à venir, c'est-à-dire lorsqu'il sera de nouveau visible et qu'il règnera sur la terre. S'opposer à lui, eh bien, ce sera quelque chose qui nous conduira, qui conduira les hommes immédiatement à la perdition. Alors on se soumettra, mais quand la possibilité sera donné de se prononcer, ceux qui n'ont pas été régénérés, qui n'auront pas dit un oui total dans leur cœur, se laisseront entraîner par Satan, et c'est là que le feu du ciel anéantira les rebelles, et qu'ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et c'est à ce moment-là, donc après les 1000 ans, que le ciel et la terre passeront, avec un bruit sifflant, que les éléments seront dissous, comme le dit l'apôtre Pierre, et que se dressera alors dans l'infini le grand trône blanc pour le jugement dernier. C'est à ce moment-là, après les 1000 ans de règne, après la destruction du ciel et de la terre, que se trouve dressé dans l'infini le grand trône blanc et que les morts qui ne sont pas ressuscités jusque-là, tous les morts dans l'impiété ressusciteront. La mer rend ses morts, le séjour des morts rend ses morts et ils comparaissent devant Dieu, devant le Seigneur. Les livres sont ouverts, ils sont jugés d'après leurs œuvres et l'on constate que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Vos noms auront donc été effacés. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a jamais prédestiné les gens à la perdition. Il y avait un livre de vie. Tous les hommes qui sont nés étaient dans le livre de vie, dans les registres du Créateur. Mais il vous donne un temps pour le recevoir et pour le reconnaître comme sauveur et comme père. Si vous le refusez, le jour vient où votre nom est effacé. Puissions-nous comprendre ces choses et ne pas avoir part à ce jugement dernier. Pour quelle raison ? Parce que nous avons accepté un autre jugement, d'être jugés dans le Christ à la croix. Et alors, tout étant réglé, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus que Dieu et les hommes. Dieu habitera avec les hommes, ils seront son peuple et lui sera leur Dieu. C'est le 21 de l'Apocalypse. Et dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni peine, plus de larmes. Les premières choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et toutes sont de Dieu. Et alors, il n'y a plus de temps, plus dans la sainte cité. Dieu lui-même est tout en tous. Après le règne millénaire, quand le Seigneur aura mis tous ses ennemis comme marche-pied de ses pieds, quand il aura régné, alors lui-même remettra le royaume à Dieu le Père. Et Dieu sera tout en tous. C'est l'état éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous donne de sonder les Écritures. Et ces choses qui vous paraissent peut-être nouvelles ou compliquées deviendront chères à votre cœur. Ce ne sera plus des théories, mais vous vivrez dans l'attente. L'attente du Seigneur. Amen. Dieu notre Père, nous avons appris tant de choses dans les écoles, nous nous sommes appliqués à apprendre toute espèce de leçons afin de pouvoir vivre sur la terre, avoir un métier, une occupation. Pourquoi n'apprendrions-nous pas à ton école ce qui concerne les choses célestes qui ont plus d'importance encore pour nous que les choses terrestres? Car les choses terrestres qui nous occupent ne sont que pour un temps. Les choses célestes sont éternelles. Donne-nous de comprendre que nous devrions être moins préoccupés de notre vie terrestre et que nous devrions être davantage préoccupés de cette vie d'éternité qui sera la nôtre, afin que dans l'éternité nous soyons tout à ta gloire, que ta bénédiction repose sur nous et que ce camp qui se termine ne soit pas une fin pour nous,
mais un commencement. Le commencement de notre entrée dans les vérités immuables de ta parole. Et que rayonnant de foi, d'espérance et d'amour, nous puissions avoir un témoignage dans ce monde qui parle aux âmes et que voyant notre espérance, nous demandant la raison de notre espérance, nous puissions leur dire, venez avec nous. Venez avec nous. Non pas dans notre milieu, mais dans le chemin qui est Jésus. Venez avec nous, non pas pour entendre nos vérités, mais pour connaître celui qui est la vérité. Venez avec nous, non pas pour que vous adoptiez notre manière de vivre, mais que vous connaissiez celui qui est la vie et la vie éternelle. Amen.